gros pour les petites branches qu'il y a sur le dessus. Et c'est donc lorsqu'il fait très chaud en Afrique, à midi, les gens cessent leur activité, puis bon, ça va être l'occasion de se rassembler sous le baobab, à l'ombre, pour discuter, pour jaser, pour traiter des affaires. Alors, je vous invite sous le baobab pendant quelques instants, et puis je vais vous partager un petit peu ce qui s'est passé pour nous en Afrique, un petit peu davantage. Vous avez remarqué que on est parti, il y a 4 ans, on avait l'air de ça. Brenda et moi, on n'a pas changé beaucoup, mais évidemment, nos 3 gars ont changé beaucoup. Alors, Jonathan au milieu avec l'espèce de... Ça, c'est l'humidité de l'Afrique. La chaleur et l'humidité de l'Afrique, ça fait ça. Moi aussi, je serais comme ça si j'avais des cheveux. Et alors, Jonathan a 18 ans. Il étudie au cégep, au collège de Shawinigan, en sciences humaines. Il s'en va vers étudier le droit. Et puis, il est impliqué avec la jeunesse à Shawinigan Sud. Il est sur le groupe de jeunes leaders en formation. Il va être baptisé au mois de janvier. Et puis... par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de faire son œuvre dans son cœur. Joël, le t-shirt rouge. C'est pas aussi beau que sur mon écran ici. A été baptisé en Afrique en 2009. Et puis, il est en secondaire 5, il est au high school de Shawinigan. Il joue au basketball. Et puis, il veut faire probablement une technique en informatique au collège de Shawinigan. Nicolas, de l'autre côté, c'est notre grand rêveur, est toujours aussi perdu dans son imagination. Il s'en va en ingénierie d'une façon ou d'une autre. Alors, le Seigneur est en train de faire son œuvre dans nos cœurs à tous. Mais vous ne les retrouverez plus sur nos photos missionnaires. Ils ont décidé qu'ils sont venus en Afrique pendant 4 ans avec nous autres. Et puis, ça a été une expérience spéciale pour eux tous. Là, ils ont dit, ça, c'est à nous, Brenda et moi, de poursuivre le ministère là-bas. Eux, ils continuent, ils sont en train de développer leur autonomie pour ce que le Seigneur a en réserve pour eux. Et avant de poursuivre, de vous dire un petit peu davantage sur le ministère, je veux passer un petit peu de temps dans la parole de Dieu avec vous. Puis je le fais au début parce que si je garde pour la fin, je risque de manquer de temps, puis je ne veux pas raccourcir ça. Et je vous inviterai donc à ouvrir vos Bibles dans Luc au chapitre 19. C'est pas un texte missionnaire. C'est pas... je vous parlerai pas... Mon message porte pas sur la mission ou quoi que ce soit. Luc 19, c'est une parabole du Seigneur. C'est simplement un texte qui me fascine, qui me travaille, qui me fait réfléchir. Et puis, je suis loin d'avoir terminé ma réflexion sur ce texte-là. Et puis, bon, ce matin, je vais simplement vous partager là où j'en suis rendu, certains aspects de ma réflexion, en espérant que ça va être une bénédiction puis un défi peut-être pour vous aussi ce matin. Et alors je vais lire les versets 11 à 27. Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait paraître à l'instant. Il dit donc, c'est Jésus qui parle, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour après avoir reçu la royauté, Il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt. » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgez-les en ma présence. » Bon, c'est une parabole du Seigneur. On est plus familier avec la parabole parallèle dans l'Évangile de Matthieu, qui est la parabole des talents, où chacun des serviteurs reçoit selon ses capacités. Mais cette parabole-là ici est différente. Un petit peu de contexte. Jésus, si vous regardez quelques versets plus haut, au début du chapitre 19, Jésus est à Jéricho et il vient de rencontrer Zachée. Vous savez, Zachée, c'est le petit bonhomme qui voulait voir Jésus, qui avait grimpé dans un arbre, puis Jésus finalement est allé manger avec lui. Il s'était converti. Et au terme de cette rencontre, Jésus avait dit au verset 9, « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Et une déclaration importante, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Tout au long de l'Évangile de Luc, il y a le Fils de l'homme qui se développe, le thème du Fils de l'homme qui se développe. Le Fils de l'homme, c'était un titre que Jésus se donnait à lui-même pour s'identifier. Il se parlait de lui à la troisième personne. Au lieu de dire « je », il disait « le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Plus tôt dans l'Évangile, Jésus a dit « le Fils de l'homme est maître du sabbat » ou « le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés ». Et au fil de son ministère, Jésus a développé ça. Puis le moment où on est rendu ici, Jésus est donc en route vers Jérusalem. Il y a toute une foule qui est avec lui. Au verset 11, vous avez remarqué, on a dit « alors qu'ils écoutaient, pluriel, il ajouta une parabole, parce qu'on pensait, ça veut dire, c'est les gens qui étaient là. Jésus, au fil de son ministère, rassemblait les foules. Progressivement, au fur et à mesure que sa renommée se développait, les foules venaient à lui de plus en plus. On venait de loin, on venait même des pays d'alentour pour venir voir Jésus. On venait l'entendre, on venait aussi pour être guéri, on venait, parce que c'était un homme puissant en œuvre et aussi en enseignement, il faisait des miracles, donc on venait pour être guéri, on venait pour recevoir ce qu'il avait enseigné, et sa réputation était très très grande, c'est un prophète puissant. Donc, il y avait une grande foule qui s'était rassemblée, qui suivait Jésus constamment. Jéricho, là où il était, c'était une ville importante, c'était une ville de finance. Il y avait un palais d'Hérode qui était là. Zachée, c'était pas juste un collecteur d'impôts, c'était un chef de collecteur d'impôts. C'était comme un haut fonctionnaire là, financier de la place. Jéricho était une place importante. Il y avait du monde de toutes sortes. Alors, vous pouvez imaginer la foule qui était là. Il y avait évidemment des gens il y avait des gens de tous les niveaux sociaux. Zachée, comme je viens de dire, qui était la haute finance, mais il y avait aussi des pauvres, des gens sans rien qui venaient à Jésus en espérant que Jésus transforme leur vie d'une façon ou d'une autre. Il y avait des gens qui croyaient en Jésus. Évidemment, il avait ses apôtres, il avait ses disciples avec lui. Il y avait des gens qui ne croyaient pas en lui. Il y avait des pharisiens puis des scribes qui le suivaient. Les scribes, c'était ceux qui s'occupaient de transcrire la loi, qui étudiaient la loi puis qui l'enseignaient. Mais eux autres, ils étaient là pour watcher Jésus. Ils checkaient tout ce qu'il disait pour essayer de le prendre au piège par ses paroles, parce qu'eux autres, ils n'aimaient pas que tout le monde aille après lui. Ils étaient en train de perdre leur contrôle sur la religion, sur le peuple. Alors, ils étaient là pour le watcher. Alors, c'était une foule de toutes sortes de gens, très disparates. Et puis même parmi cette foule-là, Jésus, un petit peu avant, dans l'évangile de Luc, il a posé la question à ses disciples, « Les gens, ils pensent que je suis qui? » Là, certains ont répondu, ses disciples ont répondu, certains disent que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité des morts, parce que Jean-Baptiste s'était fait décapité par le roi. Il y en a d'autres qui pensent que tu es un des anciens prophètes. Il y en a d'autres qui pensent que tu es Élie, qui était le précurseur du Messie. Jésus lui avait dit, mais vous autres, vous pensez que je suis qui? Et Pierre a fait cette fameuse déclaration, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors, les opinions étaient variées parmi cette foule-là. On ne savait pas trop quoi penser au sujet de Jésus. Mais il y avait comme une atmosphère spéciale à ce moment-là, parce que Jésus était en route vers Jérusalem, et puis on pensait vraiment que c'était le moment où le royaume allait être réinstauré. Les Juifs soupiraient après la libération de l'emprise de l'Empire romain. N'est-ce pas? Ils attendaient le libérateur. Pour eux, le Messie avait une saveur politique, là. Et puis, tout dans l'atmosphère semblait être favorable. D'ailleurs, si vous continuez à lire le chapitre 19, c'est l'entrée à Jérusalem où Jésus envoie un de ses disciples chercher un âne et il rentre à Jérusalem monté sur un âne, ce qui accomplissait comme une prophétie, les rois, dans le temps, quand ils étaient couronnés, ils entraient montés sur un âne, ça faisait partie de la procession royale. Jésus est entré à Jérusalem comme ça, les gens autour mettaient les branches de palmiers devant lui, ça criait, puis là, les pharisiens qui paniquaient, ils disaient à Jésus, arrête tes disciples, et puis Jésus qui disait, si je les arrête, les pierres vont crier. Donc, il y avait une atmosphère qui était vraiment spéciale. On pensait vraiment que Jésus allait établir le royaume à ce moment-là. Alors, c'est ça les circonstances de cette parabole, la parabole des mines. Jésus veut s'adresser à cette question-là. Est-ce le moment d'établir le royaume? Et il raconte cette parabole. Une parabole, c'est une histoire qui enseigne. C'est une histoire qui réclame, qui demande une réponse de ceux qui sont là pour écouter. Ceux qui écoutent cherchent à s'associer, à trouver leur place dans l'histoire, et puis ils doivent répondre en conséquence, dépendamment de où ils se sont identifiés dans l'histoire. Et cette histoire, il y a deux groupes de gens. Évidemment, il y a l'homme de haute naissance. De façon toute naturelle, on l'associe évidemment à Jésus. Mais il y a deux autres groupes. Il y a les serviteurs et puis il y a les concitoyens ou les, dépendamment de votre version, les gens, les autres gens. Ces autres gens, ils envoient une délégation après le roi, pour dire « on ne veut pas de ce roi-là ». Et c'est curieux, Jésus est en train de reprendre quelque chose que les Juifs avaient fait à Hérode. Quand Hérode, le roi de ce moment-là, était allé à Rome, parce que sous l'Empire romain, évidemment, il fallait aller à Rome pour recevoir la royauté, les Juifs avaient envoyé une délégation derrière lui pour faire exactement ce que Jésus a mentionné ici. Nous ne voulons pas que ce roi-là règne sur nous. Alors Jésus est comme en train de leur envoyer une craque ici à ces Juifs-là qui ne veulent pas de lui comme roi. Et si on saute au verset 27, c'est sûr que leur fin est tragique. Ceux qui ne reçoivent pas Christ, qui n'acceptent pas la royauté de Christ, vont faire face à un jugement très sévère. Je ne veux pas parler de cette... Je ne dirai pas plus de ce groupe-là. Ce qui me travaille plus, moi personnellement, c'est les serviteurs qui reçoivent des mines. Une mine, c'était l'équivalent, c'est un montant intéressant, c'était l'équivalent de 100 jours de salaire. Vous pouvez faire un calcul, là, évaluer la journée, le salaire d'un ouvrier, le salaire d'une journée, multiplié par 100, ça vous donne un peu l'idée du montant. C'est pas un énorme montant, mais c'est pas un petit montant. C'est un montant qui va être intéressant à voir. Qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est ça le but de la parabole. Comment allez-vous utiliser ce montant-là? Alors, dans notre parabole, chaque serviteur reçoit le même montant et chaque serviteur reçoit le même mandat, c'est-à-dire de le faire valoir. C'est très différent de l'autre parabole avec laquelle on est habitué, où chacun reçoit selon ses capacités, des montants différents. Ici, c'est tout le monde a le même montant et le même mandat. Mais on s'aperçoit que chaque serviteur produit un rendement différent. Et que la récompense est proportionnelle au rendement. Évidemment, comme j'ai dit tantôt, nous, on a tendance, pas à juste titre, on associe l'homme de haute naissance à Jésus, et c'est effectivement le cas. Et puis, les serviteurs, c'est nous, les disciples. Mais c'est là que moi, ça commence à me travailler. La mine, c'est quoi?
C'est l'œuvre que Dieu nous donne.
À œuvrer avec lui. On reçoit tous le même montant. Salut, Saint-Esprit. Je vais vous suggérer l'Évangile de façon globale qui inclut ce que vous avez dit. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Évangile. Jean-Baptiste, quand il a commencé son ministère, il disait... Je lis en Luc 3, 18, « Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortations. » Il annonçait la bonne nouvelle. Et si on regarde dans les autres évangiles, son message, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus, quand il a commencé son ministère lui-même, Luc chapitre 4, au verset 18 et suivant, on voit qu'il lit dans Ésaïe l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Dans les autres évangiles, en Matthieu, on voit qu'il reprend exactement le message que Jean avait, chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume, guérissait les malades, toute infirmité parmi le peuple. Jésus a repris ce même message. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Lorsqu'il a envoyé ses 12 apôtres, il leur a dit, prêchez la bonne nouvelle. Quelle était cette bonne nouvelle? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les 70 qui sont allés par la suite deux à deux, ils avaient le même message. Ça englobe donc l'évangile d'une façon, je veux dire, large. C'est cette mine qu'on a reçue. Et notre mandat, c'est donc de la faire valoir. Et on pourrait dire que la faire valoir, bon, c'est l'annoncer, le prêcher, le vivre, cet évangile. Quant à notre récompense, dans la parabole, les rendements sont différents et les récompenses sont différentes. Notre récompense sera proportionnelle à notre rendement. Ici, on aurait peut-être tendance à tomber dans ce que j'appellerais un activisme religieux, à faire plein d'affaires pour Dieu, pour le Seigneur. Commencer à faire plein de choses parce que il faut qu'on a un bon rendement parce que notre récompense va être proportionnelle à ça. Mais là, moi, ça me fait réfléchir, ou ça me fait penser à des passages comme Luc 10, Marthe et Marie. Est-ce que vous connaissez le syndrome de Marthe? Marie était assise au pied du Seigneur pour recevoir ses instructions, puis Marthe s'activait à beaucoup de choses. Et le Seigneur lui avait dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » C'est intéressant. Ça me fait penser aussi à Matthieu 7, 21-23, où le Seigneur, devant une foule qui était assemblée, il leur dit, « C'est pas tous ceux qui viennent me dire « Seigneur, Seigneur » qui sont mes disciples. » C'est même pas tous ceux qui disent « Seigneur, j'ai guéri des malades en ton nom. » Il va même jusqu'à dire « J'ai ressuscité des morts en ton nom. » Et Jésus dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Moi, ça me trouble de réfléchir à ça. Matthieu 25, parabole des brebis et des boucs. C'est une autre histoire où, à la fin des temps, le Seigneur divise les nations et puis il met les brebis à droite, les boucs à gauche, et puis il reproche notamment aux boucs, « J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, etc. » Tous ces textes-là, pour moi, ça me montre comme un activisme religieux. Et puis, je m'interroge, est-ce que je tombe dans le panneau, moi aussi? Moi, imaginez, je suis missionnaire en Afrique. Ça, c'est comme le ultime, là. Tu sais, c'est le service ultime. Missionnaire en Afrique. Ce serait facile pour moi de me cacher derrière ça. Puis dire, regarde Seigneur, je suis missionnaire en Afrique. Pourtant, est-ce que c'est vraiment là les œuvres que Dieu s'attend de moi? Éphésiens nous dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous. Quelles sont-elles vraiment? Qu'est-ce que je fais avec ma mine? L'œuvre, si la mine c'est l'Évangile, si je dois vivre cet Évangile, vivre ce royaume-là, le faire prospérer, et que ce n'est pas dans un activisme religieux, où est-ce que ça se trouve? Et puis, c'est là où Vous m'excuserez, hein, mais je n'ai pas de conclusion à vous donner là-dessus. Je fais juste vous dire là où je suis rendu dans ma réflexion. Mais je crois que le royaume des cieux se trouve dans nos relations. Les relations que nous entretenons avec les gens autour de nous. Et puis, c'est très facile, comme je l'ai dit, se cacher derrière des activités pour essayer de camoufler ce qu'on ne fait pas avec nos relations. En tant qu'époux, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que, bon, dans nos relations de travail. Je crois que les œuvres préparées d'avance par le Seigneur se trouvent dans ces endroits-là. Je crois que le royaume de Dieu se trouve là, et que c'est là qu'on va avoir à rendre compte de notre mine. Beaucoup plus que dans nos accomplissements à titre de missionnaire, à titre de pasteur, à titre de professeur d'école du dimanche, à titre de responsable de ceci ou de cela dans l'Église. Je crois que ce sont nos relations qui vont être évaluées en partie. Du moins, c'est là où j'en suis rendu dans ma réflexion par rapport à cette parabole. Que faites-vous avec votre mine, vous? Que faites-vous avec ce que Jésus vous a donné? Où en sont vos relations dans le royaume? Les relations que vous avez autour de vous, que Dieu utilise pour bâtir son royaume. Est-ce que vous allez être comme ce serviteur qui va recevoir, qui va offrir 10 mines à son maître, ou est-ce que vous allez être comme celui qui l'a caché dans un linge puis qui l'a mis en dessous de son lit, et peut-être qu'il va avoir fait beaucoup d'autres choses à côté, mais qui va avoir laissé dormir sa mine et qui n'aura rien à offrir à son Seigneur? C'est là où en est rendue ma réflexion. Et c'est là où je vous laisse avec cette réflexion, en espérant que le Seigneur, par son esprit, va agir. On va faire un petit mot de prière par rapport à ce que cette méditation, s'il vous plaît. Père éternel, je veux te remercier de ta grâce pour nous tous, puis je veux te remercier pour ta parole. Et puis, éternel, je veux te prier pour mes frères, mes sœurs ici ce matin, afin que par ton esprit dans leur cœur, tu puisses agir et leur montrer dans quel fond de placement ils ont mis leur mine. Montre-leur leur relation. Montre-leur le rendement. Et aide-nous tous, Père, à corriger. Aide-nous tous à prendre soin de nos relations, à investir dans ces relations, à les faire fructifier, parce que c'est là qu'est ton royaume. Alors je te prie pour que tu fasses cela dans le cœur de mes frères, de mes sœurs ici ce matin. Au nom de ton fils Jésus. Amen.